L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Gloire à Dieu. On va pencher nos têtes, on va prier, on va remettre cette portion au Seigneur. Seigneur Dieu, on veut te remercier encore une fois pour ta parole. Seigneur Jésus, je prie que chaque personne ici puisse recevoir quelque chose de nouveau. Seigneur, je prie que les personnes qui sont ici qui puissent avoir un cœur ouvert à recevoir de toi. Seigneur, je te donne ma bouche, remplis ma bouche, Seigneur, que je puisse parler, Seigneur, les choses qui sont sur ton cœur. Mais je prie premièrement, Seigneur, que tu touches les gens, que les gens puissent avoir un cœur ouvert pour recevoir plus de toi aujourd'hui par ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous savez, des fois, on peut recevoir un message et on peut entendre un message et l'état de notre cœur va changer le fruit. Ça va changer qu'est-ce qu'on va recevoir de ce message-là. Savez-vous? Vous pouvez venir à l'église si vous êtes préoccupé avec d'autres choses. Vous pouvez être là encore physiquement, mais ne rien recevoir parce que vous étiez ailleurs. Ou peut-être vous êtes là aussi puis vous êtes dans le doute ou vous pensez aux choses négatives que l'ennemi voudrait venir semer. Le diable, qu'est-ce qu'il veut? Vous savez, il travaille 24 heures sur 24 pour nous voler. C'est un voleur. Il vient pour nous voler, nous égorger, nous détruire. C'est ça la job du diable. Alors, votre job, comme j'ai enseigné les autres semaines, c'est d'être la police et d'empêcher l'ennemi de venir vous voler. Le diable, lui, il veut voler des destinées. Savez-vous ça? Il veut venir avorter les plans de Dieu dans vos vies. Il veut avorter ces plans-là. Il veut empêcher que la semence qui a été déposée en vous, que cette semence puisse porter fruit. Mais c'est à vous, ce matin, de dire, moi, je reçois la parole de Dieu pour ma vie. Je reçois cette parole-là. Et si vous le faites ce matin, moi, j'ai confiance que vous allez toucher de la part de Dieu et que le Seigneur va faire un miracle dans vos vies. Ce que le Seigneur a commencé en vous, il va l'accomplir. Dieu ne commence jamais quelque chose pour dire, tu vas te rendre à moitié chemin. Tu vas voir les autres passer à côté de toi. Eux, ils vont y arriver. Toi, tu vas arrêter à mi-chemin. C'est pas comme ça avec Dieu. Quand Dieu commence quelque chose dans le cœur d'une personne, c'est pour les amener jusqu'au bout. Amen. Soyez décidés ce matin. Je me rends jusqu'au bout. Je prendrai pas des raccourcis dans le plan de Dieu. Je vais me rendre jusqu'au bout avec Dieu. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 44 et le verset 3. Ce matin, le thème de l'enseignement, c'est « Pourquoi suis-je ici? » Pourquoi suis-je ici? Cette semaine, pasteur Jérémy et moi et nos épouses, on était au Tim Hortons, oui, à notre siège social. On prenait un café. Et vous savez, l'Esprit de Dieu peut même visiter au Tim Hortons. Savez-vous ça? Et on parlait de la grandeur de Dieu, puis on parlait des plans de Dieu pour la francophonie. Et comme on était assis là, la présence de Dieu s'est installée au Tim Hortons. Amen. Et pasteur Jérémy, il a dit... Je suis en train de prophétiser, là, en ce moment. Je suis en train de prophétiser au Tim Hortons. On l'écoutait. C'est bon. Qu'est-ce qu'il prophétise? C'est que Dieu va nous surprendre par la gloire. Amen. Moi, je crois ça. Je crois que Dieu va nous surprendre par sa présence. Moi, j'ai soif pour plus de Dieu. J'ai soif pour vivre plus de Dieu. Puis, je veux vous lire un texte qui me bénit beaucoup, dans Ésaïe 44, verset 3. Et moi, je crois que ce texte-là se réfère, oui, certainement, premièrement à Israël, mais on peut le prendre d'une façon prophétique pour le Québec. On peut l'appliquer aussi. C'est dit, « Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Dans la parole de vie, c'est dit, « Je ferai couler de l'eau sur le sol qui a soif, des rivières sur la terre sèche. » Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. Je ferai couler de l'eau sur le sol qui a soif. Et je sais qu'au Québec, c'est un pays où les gens ont soif. Il y a une soif. Les gens se tournent à droite et à gauche cherchant Dieu. Ils ont un vide à l'intérieur. Ils ont une soif. Et je crois que ce que le Seigneur veut faire, il veut visiter cette province. Il veut visiter cette province par la puissance de son Saint-Esprit. C'est super important d'avoir la foi que le Seigneur, il s'apprête à faire des grandes choses. Et je ne sais pas si vous le ressentez dans l'esprit, Mais le Seigneur est en train de vraiment préparer des gens, est en train de préparer des choses. Il est en train de préparer une armée de gens qui vont se lever et qui vont prendre leur place dans l'armée de Dieu. Mais autant que la gloire de Dieu va venir, ce que je crois véritablement, c'est que l'ennemi essaie d'empêcher ses soldats de se lever. Il y en a qui se lèvent, puis le moment qu'ils se lèvent, ils retombent à terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé l'ennemi les influencer dans leurs pensées. Et des fois, on se dit, moi, je connais des choses sur Dieu, mais c'est pas assez de connaître des choses sur Dieu. Faut connaître Dieu. Faut connaître Dieu intimement. Et quand on connaît Dieu intimement, et là, même quand l'ennemi vient nous mentir pour nous semer le doute, la voix de Dieu en dedans de nous est tellement plus forte qu'on enterre la voix du diable. Puis on dit, non, je connais la vérité sur mon Dieu. Je connais ma destinée. J'ai une vision pour mon avenir. Je sais qu'est-ce qui s'en vient. Et je continue, je marche avec Dieu. Puis moi, ça me réjouit parce que je sais qu'on est sur le bord de vivre des grandes choses dans la présence de Dieu. Mais avant de vivre toute la splendeur, toutes les choses que Dieu veut pour nous, une des choses qu'on doit vraiment comprendre, c'est qui suis-je, puis pourquoi suis-je ici? Puis quand on a la révélation vraiment, ça change notre optique de la vie. Comme on a parlé les autres fois, on a parlé de l'autorité du croyant, mais il faut comprendre également cette question-là. Alors, je vais vous inviter à tourner en Ecclésiaste 3, ou le verset 11. Je peux simplement vous lire également, Ecclésiaste 3, 11. Il est écrit, « Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. » Dieu a donné à chaque personne cette pensée-là, la pensée de l'éternité. Moi, je me souviens, j'avais peut-être 5 ans. On venait de déménager dans la maison où mes parents habitent encore aujourd'hui. Je me souviens, il y avait des grands champs tout autour de la maison. Et moi, qu'est-ce que je faisais quand j'avais 5-6 ans? J'allais me coucher dans les grands champs. Je ne sais pas si vous avez fait ça aussi comme enfant, comme il y a des gros fouettes peut-être. Aujourd'hui, ça serait très court, parce que j'étais très court aussi. Mais j'allais me coucher dans le champ, puis je regardais le ciel. Je regardais le ciel, puis je disais, wow, Dieu est grand. Dieu est grand. Puis vous savez, chaque personne que Dieu a créée a cette pensée de l'éternité. Puis on se met à chercher Dieu de toutes sortes de façons. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, il s'est révélé à nous. Dieu s'est révélé à nous et Dieu veut qu'on puisse vraiment le connaître intimement. C'est pas assez le connaître d'une façon intellectuelle ou selon la religion, mais on veut avoir cette relation d'intimité avec Dieu. Puis moi, je sais que quand j'étais très jeune, j'avais ce désir pour Dieu depuis ma tendre enfance. J'ai compris un petit peu peut-être pourquoi j'avais ce désir-là. Je sais que ma mère, elle priait pour moi. Vous savez, une mère qui prie, c'est merveilleux. Quand ma mère est enceinte de moi, elle a failli me perdre, elle a failli faire une fausse couche, puis elle était obligée d'être couchée pendant, je ne sais pas combien de temps, mais longtemps, parce qu'elle était censée me perdre. Mais elle a fait cette prière. Elle dit, Seigneur, elle dit, si tu mets ta main sur mon enfant, elle dit, je vais le consacrer pour qu'il devienne un serviteur de l'Éternel. C'est ça qu'elle avait prié, puis elle avait dit, Seigneur, protège mon enfant. Et me voilà, je suis encore vivant, comme vous voyez. La prière d'une mère et la pensée de l'éternité qui est là, ça a toujours été comme pour moi. C'est tellement vivant, la pensée de l'éternité. Penser qu'on n'est pas là juste pour un jour ou 100 ans, mais on est là pour l'éternité. Soit l'éternité avec Dieu ou l'éternité sans lui. Ça vaut tellement la peine de se consacrer à lui, se donner à lui pour passer l'éternité dans sa présence. Ça, c'est merveilleux. Mais chacun d'entre nous, on a cette pensée-là. Et si aujourd'hui, vous n'avez jamais vraiment... vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, peut-être vous êtes en train de penser comment est-ce que je peux faire, ou vous êtes en réflexion de tout ça, ben j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on va parler justement pourquoi nous sommes ici. Et peut-être vous êtes un chrétien de longue date et vous dites, ben moi, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, mais on dirait, il me manque un but. Je ne sais pas pourquoi je suis ici vraiment, il me manque un but. Mais gloire à Dieu, avant de répondre, pourquoi suis-je ici, on va répondre à la question, qui suis-je? Alors, je vais lire dans Jean chapitre 1, verset 12. Ici, on est dans deux catégories. Vous êtes assis ici, il n'y a pas trois catégories. Chaque personne ici dans l'auditorium, vous êtes dans une catégorie, une catégorie entre les deux. Dans Jean chapitre 1, verset 12, ça dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc, vous êtes possiblement un enfant de Dieu. Et ce que vous avez fait pour recevoir ce nom-là, et vous l'avez reçu, vous avez cru en son nom. Et dans Jean 8, 44, Dans Jean 8, 44, c'est dit, ça c'est l'autre catégorie. Jésus parlait, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc, on a soit Dieu comme notre père céleste ou c'est le diable. Et peut-être on dit, ben moi j'ai jamais dit que le diable serait mon père. Mais que vous l'avez dit ou non, si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de votre vie, automatiquement, votre père, c'est le diable. Vous ne l'avez peut-être pas choisi, mais vous n'avez pas encore choisi Jésus, donc vous êtes automatiquement encore un fils de Satan. Il y a deux catégories dans le monde, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas la catégorie des bonnes personnes. Il y a la catégorie des gens avec Dieu et la catégorie des gens sans Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous pouvez changer de catégorie aujourd'hui. C'est bon, c'est merveilleux. Et vous savez, dans le monde dans lequel on vit, les gens, des fois, on entend les gens dire, « Ah, ben on est tous des enfants de Dieu. » Ça, c'est faux. On est tous la création de Dieu. Mais à quelque part, il faut arriver à cette place, cette journée où on se donne vraiment au Seigneur. Et des fois, les gens ont de la difficulté, ont peur de se donner à Dieu. Ils ont cette crainte parce qu'ils se disent, « Bien, moi, je veux ma liberté. » Peut-être que vous avez rencontré des gens qui ont dit, « Ben moi, je veux être libre, je veux faire qu'est-ce que je veux. Je veux être libre. Et si j'accepte Dieu dans ma vie, je vais perdre des privilèges, je vais être obligé de faire telle ou telle chose. » Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens, mais des gens qui ont peur d'être un enfant de Dieu parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre, qu'ils vont être perdants. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Quand on devient un enfant de Dieu, on ne devient pas un perdant, on devient un gagnant. On gagne un héritage merveilleux. Et ce matin, on va parler un petit peu de l'esclavage. Quel titre, hein? L'esclavage. On va parler de l'esclavage quand on répond « Pourquoi suis-je ici? » Mais la liberté dans le monde, les gens pensent qu'ils sont libres quand ils marchent indépendamment du Seigneur. Mais dans Romains 6, verset 16, Romains chapitre 6 et le verset 16, l'apôtre Paul a dit ici « Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché, qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc, s'il y a des péchés dans votre vie et vous êtes obligé de faire telle ou telle chose, bien, vous êtes esclave. Vous êtes esclave de ce péché-là et de la nature pécheresse. Mais ça nous parle également qu'on peut choisir la justice. Et dans Romains chapitre 6, versets 17 à 18, Romains 6, versets 17 à 18, ça dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Voyez-vous, quand on devient un enfant de Dieu, en fait, on devient esclave de la justice. Et on va parler de la liberté aujourd'hui, c'est certain. Mais dans le monde, comme j'ai dit, il y a deux catégories, les enfants de Dieu, les enfants du diable. Et les enfants du diable sont esclaves de la nature pécheresse. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de pécher. Ils se pensent libres, mais c'est faux. Ils sont obligés de pécher parce qu'ils sont esclaves. Quand la nature pécheresse dit « fais telle ou telle chose », ils sont obligés. Ils marchent dans le péché, ils sont incapables de marcher dans la justice par eux-mêmes. C'est important. Mais pour les enfants de Dieu, nous sommes également esclaves. Puis des fois, on n'entend pas parler vraiment au Québec. On parle rarement de ça. Qu'on est esclave de Dieu, de la justice. Puis quand on a parlé les autres semaines de la justice de Dieu, comme nous sommes devenus la justice de Dieu, non seulement est-ce que nous sommes devenus la justice de Dieu, mais nous sommes même esclaves de cette justice-là. On va voir, vous allez comprendre, mais c'est vraiment merveilleux. Ça nous donne une perspective de notre vie chrétienne. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit, les gens qui veulent être libres, leur liberté, en réalité, c'est vraiment de l'esclavage. Quand on considère, ils vont essayer d'avoir du plaisir en essayant toutes sortes de choses. Des fois, les gens sont bon, dans les bars, ils vont boire de l'alcool, fumer, ils vont vivre le party, soi-disant. Et puis, pour eux, ça, c'est le summum de la gloire. C'est le summum des choses qu'ils peuvent vivre. Là, les gens vont se saouler, ils vont être malades le lendemain. Et puis, pour eux, c'est ça, leur plaisir. Ils vivent pour ça. Ils vivent pour ça. Puis on se dit, mais ça donne quoi, ça, au juste? Ça donne quoi? Vivre pour aller boire, vivre pour faire ces choses-là? Bon, il y en a qui vont dire, ah, mais c'est le fun. C'est certain qu'il y a une mesure de plaisir. On va le voir ensemble. On va le lire ensemble dans Hébreux, chapitre 11, verset 24. Hébreux 11, verset 24. Ici, ça nous parle de Moïse. Ça dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Voyez-vous, Moïse était un homme intelligent. Il réalisait qu'il y avait un certain plaisir au péché. C'est sûr, si le péché n'avait pas de plaisir, les gens ne le feraient pas. Hein, il y a un certain plaisir, il y a une mesure, un temps, pour un temps seulement. Mais quand on est intelligent, on peut examiner Matthieu 16, verset 26, qui dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Pensez-y. Vous allez veiller dans les bars, vous allez vous saouler, fumer, coucher à droite, à gauche. Il y a une mesure de plaisir pendant un temps. Mais après, vous vous réveillez, vous êtes malade. Puis vous avez toujours ce vide-là. Puis là, vous allez vivre combien d'années à faire ça? Peut-être 50 ans sur 100 ans, si vous vivez 100 ans. Admettons, vous vivez le party 50 ans. Les gens ne font même pas ça, là. Mais admettons 50 ans de vie de party. Et puis, vous arrivez à la fin de votre vie, et puis vous allez voir, qu'est-ce que j'ai accompli? Ben, j'ai eu du fun. Ah, mais c'est un fun qui ne vaut pas la peine. Vous avez échangé ce fun-là pour l'éternité de fun. Pensez-y, l'éternité de fun et de gloire. Ce que Dieu en réserve pour nous, c'est beaucoup plus glorieux que d'aller saouler dans les bars. C'est tellement plus glorieux. Les gens, des fois, puis moi, qu'est-ce qui me blesse, qu'est-ce qui m'attriste, c'est quand je vois les jeunes chrétiens qui vont se saouler, qui vont dans les bars, les enfants des chrétiens, on se dit, à quelque part, ils ont manqué le message, ils ont pas compris que qu'est-ce que nous, on a, les enfants de Dieu, c'est fort, plus glorieux, c'est beaucoup plus glorieux. Moi, je peux vous dire, quand j'étais un jeune, ça m'attirait pas d'aller dans les bars, parce que j'avais goûté à une mesure de la gloire de Dieu, puis je trouvais ça tellement plus glorieux, tellement plus hot, que ça ne tentait même pas d'aller dans les bars. Mais ma prière, c'est que les jeunes de cette église, vous êtes une jeunesse avec des gens de conviction, des gens consacrés. Vous savez, on pourrait avoir plein de jeunes, on pourrait avoir une église plein de jeunes, puis la moitié dans les bars. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux avoir une plus petite jeunesse, mais des gens qui aiment Dieu vraiment. Des gens qui aiment Dieu, des jeunes qui sont consacrés. Puis savez-vous, moi, qu'est-ce qui me bénit? L'autre soir, moi, j'entends des bons rapports de la jeunesse de cette église. Les jeunes, ils vont écouter des films chrétiens, ou en tout cas des films qui sont vraiment bien, et puis ils passent du temps ensemble. Puis là, sans qu'on soit là pour leur dire, bien, faites ceci, faites cela, ça leur tente de prier pendant une heure après le film. Ça, c'est bien. Ça me fait honneur. Moi, je suis béni d'entendre ça. Je me dis, c'est des jeunes, c'est pas des jeunes religieux, mais des jeunes qui aiment Dieu, qui ont compris que Dieu, là, il est grand, il est puissant. Puis qu'est-ce qu'on peut vivre avec lui? C'est glorieux. Puis les choses du monde, c'est juste une illusion. C'est rien, ça. C'est pas la vérité. La vérité, c'est ça qui est merveilleux. Puis Dieu, il veut pas qu'on soit esclaves du péché. Dieu veut nous délivrer. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Dans l'Apocalypse 5, 9, ça dit, nous avons été rachetés pour Dieu par le sang de Jésus. On a été purifiés, pardonnés par le sang de Jésus. Et là, dans 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22-23. Écoutez bien ceci, ça dit, « Un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave du Christ. » Ça, c'est important à remarquer. Vous êtes un chrétien, peut-être vous vous voyez comme étant un enfant de Dieu, mais est-ce que vous voyez comme étant un esclave du Christ? Pensez-y. Un esclave du Christ. « C'est un grand prix que vous avez été racheté. Vous étiez esclave. Vous étiez à vendre, là. Vous étiez esclave du péché, obligé d'obéir à Satan et à votre nature pécheresse. Mais le Seigneur, ici, ça dit, c'est à un grand prix que vous avez été racheté. Alors, ne devenez pas esclave des hommes. Quand Dieu nous a rachetés, il nous a rachetés pour la liberté. Amen. Et l'esclave de Christ, c'est l'esclave. Vraiment, vous allez voir, c'est différent, notre type d'esclavage. On a un autre genre d'esclavage. Ça va vous réjouir. Dans Galates 5:1, ça dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est prendre les gens qui ont été libérés et de les ravoir dans son camp. Comment est-ce qu'on peut marcher dans la servitude? Bien, on peut commencer à écouter les mensonges de l'ennemi et de quitter le plan de Dieu pour notre vie. Et embarquer dans un chemin qui est un chemin tordu, un chemin qui est contraire à la volonté de Dieu. Vous savez, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, si Dieu vous dit pas d'arrêter, vous continuez à faire exactement ce qu'il vous a dit de faire. Parce que vous êtes l'esclave de Christ. On doit réaliser que le Seigneur nous appelle à suivre le maître. Le Seigneur, c'est notre maître. Savez-vous ça? Le chrétien, c'est fou de penser que le chrétien peut faire qu'est-ce qu'il veut. Ben moi, je fais ci, je fais ça. Moi, si je fais qu'est-ce que ça me tente. Ah oui? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment le sauveur de ton âme? Oui, peut-être. Mais est-ce qu'il est le Seigneur de ton cœur? Est-ce qu'il est ton Seigneur? S'il est ton Seigneur, tu fais exactement ce qu'il te demande de faire. Parce qu'un esclave, ça obéit. Quand le maître dit, tu fais ça, tu le fais exactement. Comme notre pasteur Jérémie, quand le Seigneur lui a dit, tu quittes la France, tu déménages au Canada, il n'a pas dit, ben, je ne sais pas si ça me tente vraiment. Quand le maître parle, l'esclave obéit. On a besoin d'une révélation dans nos églises. On a besoin de devenir des chrétiens obéissants à la voix de Dieu. On a besoin d'être obéissants. Quand Dieu nous dit « fais ça », on le fait. Quand il dit « ne fais pas ça », on le fait pas. On a besoin d'avoir cette crainte de Dieu où notre bon Dieu qui nous veut que du bien, il est tout en train de préparer le chemin pour nous puis il est en train de nous dire comment marcher. Il veut simplement qu'on dise oui. Quand on dit oui, vous savez, on fait pas de fausse route. Ça va bien. Si vous êtes déprimé aujourd'hui, si vous êtes confus, le Seigneur veut vous libérer de ça aujourd'hui. Quand on devient confus, c'est quand on arrête d'écouter le maître et on reprend le contrôle de notre vie et on devient notre propre Seigneur. Quand on devient le Seigneur de notre vie, ça veut dire on devient notre maître et on se met à faire à notre tête. Et là, on se pète la tête sur les murs, on a toutes sortes de problèmes parce qu'on ne marche pas sous la direction de notre maître. Ce matin, moi, je savais, vous savez, je l'ai dit là, une semaine ou deux, quand j'ai prêché, je ressentais beaucoup d'opposition dans le monde spirituel. Un matin, quand je priais chez nous, j'ai eu un temps formidable avec Dieu. Dieu m'a visité d'une façon super merveilleuse. Puis là, je savais que quand j'arriverais ici, ça serait difficile. Puis je sais que c'est difficile parce que on est en train de changer des façons de penser aujourd'hui. Faut voir le Seigneur Jésus comme étant le Seigneur. Mais vous savez, le Seigneur, c'est un terme religieux. Ça veut plus quasiment rien dire pour nous. Le Seigneur, ça veut dire le maître. Il est notre maître. Si Jésus n'est pas votre maître, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Amen. Je suis d'accord avec moi-même. Romains 8:2, ça dit, Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Mais qu'est-ce qui est merveilleux? Remarquez, on a un autre type d'esclavage avec Dieu. Dans Jean 15, verset 12 à 15, il est écrit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Remarquez comment le Seigneur appelle ses esclaves, ses amis. Verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 15, je ne vous appelle plus serviteur. Et le mot, c'est pas serviteur. Le mot dans le grec, c'est le mot doulos, qui veut dire esclave. Il dit, je ne vous appelle plus esclave. Parce que le serviteur ou parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Voyez-vous, on est des esclaves, mais on porte même pas le titre d'esclave. Dieu nous aime tellement qu'il nous a rachetés pour nous libérer et nous appeler ses amis. Là, on est les amis de Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas le concept de l'esclavage dans l'Église, mais parce qu'on est des esclaves libérés. On est des esclaves, les amis de Dieu. Mais ça demeure que notre Dieu demeure notre maître. Il demeure à cette place-là. Et ce maître-là a un amour pour ses amis et veut le bien pour ses amis. Ça, c'est merveilleux. Mais il dit, je ne vous appelle plus esclave, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le mot philos, le mot pour ami, ça se définit comme ceci, ça dit ami, être lié d'amitié avec quelqu'un, lui vouloir du bien. un ami, un associé, celui qui est associé familièrement avec quelqu'un, un compagnon. Non seulement ça, comme on l'a vu dans les autres semaines, le Seigneur qui nous a rachetés, il nous a adoptés. Il nous a adoptés et on est devenus ses fils dans Galates 4, 5. Et dans Romains 8, 16, 7, 7, ça dit, nous sommes des enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Imaginez l'esclavage comme ça. C'est des très bonnes conditions. On est adopté dans sa famille, on devient des enfants de Dieu et co-héritiers avec lui. Et on est ses amis. Ça, c'est pas mal différent. L'esclavage du monde, par contre, c'est pas comme ça. Chaque personne que vous voyez qui existe sur cette terre, ils sont esclaves. Soit de la justice ou soit de Satan. Mais je peux vous dire que Satan n'est pas un bon maître. Notre maître est bon. Il nous veut du bien. C'est merveilleux. On a des conditions spéciales. Et regardez le joug qu'il met sur nos épaules, ce maître-là. Matthieu 11, 29, il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Quelle sorte de maître qu'on a là? Un maître qui veut qu'on se repose. C'est un bon maître, ça? Un maître qui dit, « Je veux que tu te reposes. » « Mais je suis épuisé, Seigneur. » Ben moi, je t'ai dit de te coucher. Repose-toi. Mais Seigneur, la vie est comme ça. Repose-toi. Repose-toi. Si on est épuisé, c'est temps de se reposer. Savez-vous, qu'est-ce que je vous dis là? C'est pas un message légaliste. Le légalisme, c'est de rajouter des lois sur les croyants qui ne sont pas dans la Bible. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est en train de vous dégager de votre religion. Il vous dit, allez vous coucher. Arrêtez de performer. Arrêtez de performer. Recevez son joug qui est doux et léger. Est-ce que ça veut dire que là, par là-dessus, on fait plus jamais rien? On reste couché éternellement? Non, il dit des fois, il faut se réveiller aussi. Réveille-toi, toi qui dors. Hein? Réveille-toi, toi qui dors. T'es reposé maintenant. Marche avec moi. Viens, je vais te montrer des belles choses. Je vais te montrer un plan merveilleux pour ta vie. Et là, dans Luc 9, verset 23, 24, il dit, puis il dit à tous, c'est Jésus qui parlait, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ça, ça veut dire qu'il renonce à sa chair. Qu'est-ce que sa chair lui dit de faire? « Ah, va donc avec tes chums, va te saouler, fais ci, fais ça. » Mais non, qu'il renonce à lui-même. « Qu'il se charge chaque jour de sa croix. » La religion enseigne, « Ok, là, tu vas mettre une charge super pesante sur ton dos, puis là, il faut que tu performes. » Mais savez-vous, la croix, la puissance de la croix, c'est ce qui nous a libérés et c'est la source de notre victoire. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit. 1 Corinthiens 1, 18. Cette révélation de la croix, c'est pour nous la victoire. Donc, il nous dit qu'il se charge chaque jour de sa croix, de sa victoire et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Des fois, on a dans notre tête, ah ben moi, je veux faire à ma tête. Mais en fait, cette personne-là va perdre sa vie. Il passe à côté, mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Des fois, les gens veulent nous mélanger, ils vont dire toutes sortes de choses. Puis là, ils vont dire, ben là, comme moi dans mon temps, je me souviens, il y avait une jeune fille avec qui j'avais été ami, puis on ne s'était pas vu pendant des années de temps. Puis là, plus tard, je pense que j'étais déjà marié, je l'ai revue. Puis là, elle me dit, Joël, tu ne me dis pas que tu vas passer toute ta vie à écouter ce qui est écrit dans un livre noir? Tu vas pas passer toute ta vie à faire ça. J'ai dit, absolument. J'ai découvert la plus belle vie. Je trippe au bout. Je suis béni. J'ai dit tout ça ce matin, que vous puissiez comprendre, il y a deux classes, deux types d'esclaves. Les esclaves qui ont une vie atroce, même si ça semble être le fun, mais c'est vraiment pour un court temps. Puis c'est stupide de choisir cette vie-là quand on compare à l'éternité devant nous. C'est vraiment, c'est comme, je te donne une cerne ou une pièce, je prends la pièce au lieu de la cerne. Puis c'est comme le diable dit, hey, je te donne 50 ans peut-être de vie cool, ok, accepter tes chums, et l'éternité a brûlé en enfer. Qu'est-ce que ça en dit? Moi, j'aime mieux avoir une belle vie sur la terre, bénie de Dieu, dans son héritage, et bénie au ciel. Je pense que c'est pas mal plus intéressant. Mais faut y penser. C'est comme si l'illusion... L'affaire, c'est que les gens ont les yeux juste sur le naturel, qu'est-ce qu'ils peuvent voir. OK, ils regardent à droite, à gauche, puis OK, on est guidé comme ça, ça semble intéressant. Mais si on met des lunettes spirituelles et on peut voir au-delà et dire, hey, je suis pas juste un corps, je suis pas ici juste pour vivre 100 ans, mais j'ai un esprit, je suis en fait un esprit qui va vivre pour l'éternité. Il y a pas de fin, je vais toujours exister. Je veux vivre à la bonne place, je veux marcher avec Dieu, je veux être intime de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Il veut être votre ami. Il vous a racheté pour que vous soyez son ami dans la liberté. Donc, comment répondre à la question? On a vu, qui suis-je? Ben, moi, je suis un enfant de Dieu dans la liberté. Mais pourquoi suis-je ici? Pourquoi je suis ici? Dans Éphésiens 1, on va lire ensemble. Ici, vous allez avoir votre réponse. Dieu vous a créé pour ceci. Vous allez voir. Éphésiens chapitre 1 et le verset 11 à 12. Dieu nous a dit, il nous donnait un joug doux et léger, mais il nous donne également ici quelque chose qui s'attend de nous. Dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 11 à 12, c'est dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Donc, on est obligé d'aller chercher notre héritage. OK. Oh, c'est plate. Non. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, et on connaît sa volonté, il veut que tous soient sauvés, gloire à Dieu. Verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Dieu nous a sauvés, on est ici sur la terre, la planète Terre, on est ici pour louer Dieu. C'est pour ça que vous avez été créés. Vous avez été créés pour louer Dieu. J'ai mis l'invitation sur Facebook, une personne a répondu, je suis ici sur cette terre pour évangéliser. Bien, ça fait partie de notre mandat, mais notre mandat premier, là, on est ici là, simplement pour louer et adorer Dieu. C'est pour ça qu'on est là. Vous avez été créé pour être un adorateur. C'est ça votre vie. C'est une expression d'adoration. Vous êtes là pour adorer Dieu. Là, pensez-y. Quand vous venez à l'église et vous venez louer le Seigneur, est-ce que vous adorez Dieu vraiment? Pensez-y, Dieu vous a créé pour ce moment-là. Certainement pas juste dimanche matin, c'est une vie d'adoration, mais surtout le dimanche, quand on est ensemble dans l'église. Dieu nous a créé, Dieu m'a façonné pour que je sois quelqu'un qui le loue, qui l'adore. Est-ce que je le loue d'une façon religieuse? Est-ce que je le loue d'une façon retenue? Parce que j'ai la crainte des hommes, j'ai peur qu'est-ce que les gens vont penser de moi, ou parce que dans mon arrière-plan religieux, tout le monde était lié par des cordes et avec du ciment et de la colle, comme ça. Ou est-ce que j'ai été libéré par Dieu, cet esclave qui était autrefois lié par Satan, mais maintenant libre pour adorer celui que j'aime. Dieu vous a créé pour ça. Vous êtes ici dans cette église, vous êtes sur la terre pour louer Dieu. C'est pour ça qu'on est là. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Et dans Jean 4, versets 23 à 24, c'est dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais quand on va dans le grec, c'est le mot zétéo qui veut dire cherche. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit et il faut. Dites, il faut. OK, j'ai dit, dites, il faut. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Votre commandant, votre maître vous dit, il faut que vous l'adorez en esprit et en vérité. C'est ça notre travail comme esclave de la justice, comme esclave de Dieu. On a ce joug doux et léger et on a goûté à sa bonté. On est devenu juste. Nous sommes la justice de Dieu. Et ce que Dieu s'attend de nous maintenant en retour, c'est une louange qui sort de notre cœur et de notre bouche. Et on loue notre Seigneur de tout notre cœur. Ça se peut peut-être ça fait 25 ans que vous êtes chrétien, peut-être 30 ans, peut-être 40 ans. Mais si vous n'êtes pas arrivé encore à cette place, Dieu cherche encore cette personne-là qui va le louer du fond, là, du fond. Et vous savez, en plus, il y a un bonus quand vous le faites, Dieu, il dit qu'il va descendre sur vous. Parce que Dieu habite la louange de son peuple. Donc, vous allez vivre l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous allez le louer. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Et ça se peut même qu'il va vous délivrer de votre religion évangélique. Que Dieu nous libère de la religion évangélique. Tu dis, ben, t'es pas un évangélique? Oui. Je suis un évangélique délivré. Non, mais c'est vrai. On peut être évangélique, mais tellement pogné que Dieu vous dépoigne au nom de Jésus. C'est vrai? Amen. Je vais le relire. Ça dit, l'heure vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs, vous savez, il y a des faux adorateurs. Il y a des adorateurs qui sont là, ils vont adorer Dieu pour être vus des gens. Vous savez, il y en a, surtout dans les églises à New York City, quand j'étais là, les femmes, ils portent des chapeaux, c'est super gros, là, c'est des chapeaux énormes. Et les femmes sont toutes sur leur 36 ou leur 37 ou leur 38, je ne sais pas trop. Là. Mais sont là, sont toutes habillées, sont toutes, OK, sharp, on dit. Tu sais, ils sont là, comme, vous savez comment je veux dire. C'est l'adoration. Oh, madame là-bas, elle, des beaux souliers blancs, moi, c'est pas mal cool. Ces souliers sont pas vraiment très, très chic. Et là, on se met à évaluer tout le monde. Et on n'est pas là pour louer Dieu, on est là pour faire une évaluation des gens, puis qui chante le mieux. Puis ça, c'est de la religion. Mais Dieu, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et l'esprit de l'homme, là, on parle de l'esprit, là. C'est l'Esprit de l'homme, mais qui a été touché par le Saint-Esprit. L'Esprit qui s'est laissé toucher par le Saint-Esprit. Vous savez, vous pouvez avoir votre esprit ici, on est tous des esprits, on est tous assis ici, à l'église, nous sommes tous des esprits. On habite un corps, mais votre esprit peut être comme ça aussi. Tu ne me toucheras pas, tu ne me toucheras pas, tu ne me toucheras pas, tu ne me toucheras pas. Et le Saint-Esprit vient. Mais savez-vous, aujourd'hui, là, pendant la louange, je ressentais quelqu'un là, qui était là comme « tu ne me toucheras pas, tu ne me toucheras pas, tu ne me toucheras pas ». Mais savez-vous qu'est-ce que ça est en train de faire? Vous dites, mais on dirait que je suis en train de craquer. Exactement, c'est ça qu'il veut. Il veut que vous craquez et que vous allez être libéré. C'est ça que Dieu veut. Amen. Quand vous avez été racheté à un grand prix. Ah, je vais le relire. Je vais lire ce texte-là dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut faire là, maintenant pour le louer, l'adorer? Bien, il faut comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Comprenez-vous ça? Vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Voyez-vous, ça revient sur le tapis encore. Le Seigneur Dieu, il nous dit exactement ce qu'il veut de ses esclaves, de ses amis. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on le glorifie dans notre corps. Ça veut dire qu'on va devenir des adorateurs comme style de vie. Tout ce qu'on va faire, ça va être pour adorer Dieu et glorifier Dieu. Ça veut dire que quand vous allez chez vous, la musique que vous allez écouter va glorifier Dieu. Les films que vous allez écouter va glorifier Dieu. Quelqu'un arrive chez vous, vous n'aurez pas honte parce que vous dites, ben là, j'écoute quelque chose, c'est pas vraiment beau. Vous allez fermer ça à toute vitesse. Non. Votre vie, c'est un style de vie d'adoration. Tout ce que vous faites, vous êtes en train d'adorer Dieu 24 sur 24. 24 sur 27. Non, 24. Faut bien se tromper, hein, des expressions. Faut continuer là-dedans. Hein? C'est ça. On est des adorateurs comme style de vie. Et là, Hébreux 13, 15, ça dit, par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ben, moi, je loue le Seigneur par en dedans. On n'entend rien. Vous pouvez le faire, mais bibliquement, là, ça dit, c'est un sacrifice de louange. Savez-vous pourquoi il y a un sacrifice de louange? Parce que des fois, ça ne nous tente pas. Ça ne nous tente pas de louer Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça ne vous tentait pas? Mais Dieu dit, qu'est-ce qui s'attend de nous? Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse ou qui célèbre son nom. Ça veut dire qu'il va y avoir un volume qui va sortir de votre bouche. Gloire à Dieu. Il va y avoir un volume, c'est vrai? Mais moi, je loue le Dieu par en dedans. Mais gloire à Dieu, mais là, laisse-les sortir. Là. Savez-vous si tout le monde dans cette église louait Dieu de leur trip? Quand on parle en esprit, c'est de leur trip. C'est « Gloire à Dieu, je t'aime Jésus, sois loué Seigneur! » Il y a eu des sons qui ont sorti. N'est-ce pas? Parce que savez-vous pourquoi on n'a pas honte de Dieu? On n'a pas honte de lui. On s'affiche publiquement qu'on l'aime. Dans Exode 15, 2, ça dit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. » Vous savez pas quoi dire. Parler de Dieu, parler de sa bonté, de sa grandeur. Dans Romains 12, 1, ça dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » Voyez-vous, ici, c'est un sacrifice vivant. Dieu ne cherche pas des morts, il cherche des gens en vie qui vont offrir leur vie comme adoration. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont le faire pour plaire à leur Dieu, plaire à leur Seigneur. On a vraiment mal compris c'était quoi l'évangile de Jésus-Christ. Parce que savez-vous qu'est-ce qui se passe? On pense que Dieu est là pour nous. Oui, Dieu est là pour nous, mais on est là pour Dieu. C'est pas Dieu qui est notre serviteur. OK, tu as besoin d'être guéri. OK, je vais faire ça. Tu as besoin de ça. OK, je vais faire. Oui, Dieu est bon. Dieu guérit. Dieu bénit. Dieu fait les grandes choses merveilleuses. Et Dieu, toutes les promesses qui sont là sont oui et amen pour nous. Mais faut comprendre qu'on est là premièrement pour lui. On est là pour l'adorer. On est là pour le célébrer, l'honorer. Ça veut dire que quand Dieu dit « Fais telle affaire », mais ça ne fait pas de sens, Seigneur. Je t'ai-tu demandé d'évaluer la chose, là? Je viens de te dire d'aller faire ça. Donc, OK, ça, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça va donner en disant, là? Je suis le maître, toi, tu es mon ami, puis tu vas m'écouter. C'est comme ça que c'est supposé de marcher. Mais savez-vous les problèmes dans nos églises? C'est parce que le Seigneur n'est pas le Seigneur de beaucoup de chrétiens. Et savez-vous pourquoi c'est un petit peu plus difficile pour moi de prêcher ça un matin? C'est que peut-être vous êtes un chrétien de longue date et le Seigneur n'est pas encore le Seigneur de votre vie. Peut-être ça fait 25 ans que vous êtes le Seigneur de votre vie et qu'il est juste le Sauveur. Vous savez qu'il vous a sauvé, vous savez qu'il a payé pour vous, mais vous n'y avez jamais donné la place de maître. Si il devient votre maître, vous allez voir un changement dans votre vie et l'Église ici va changer. Quand Dieu vous dit... Mon enfant, réveille-toi, c'est l'Église. Va me louer à l'Église. Ben, je vais me faire couler un petit café avant, là. Puis si ça me tente, je vais arriver à l'heure. Vous avez besoin d'avoir une crainte de Dieu. Une crainte de Dieu. Ah, mais là, pasteur, si tu commences à prêcher comme ça, on va peut-être perdre du monde. Non, je ne perdrai personne. Parce que si vous ne revenez pas, c'est parce qu'on ne vous avait jamais avec nous de toute façon. Parce que nous, qui nous sommes, on est des adorateurs. Si vous êtes avec nous, vous allez être des adorateurs avec nous. Puis si vous quittez parce que vous ne voulez pas adorer, on ne vous avait jamais de nous, avec nous de toute façon. Comprenez-vous? Qu'est-ce qu'on veut? Des gens qui aiment Dieu, qui aiment leur maître, qui veulent le servir et qui vont être assez humbles d'obéir leur Dieu quand Dieu parle. Amen. Mais ça fait la différence entre la religion. Je peux vous dire, c'est vrai. C'est vrai, à chaque fois qu'on prêche, on dit des affaires qui ne sont pas vraiment prêchées ailleurs, qui peuvent déranger les gens, et puis ça va contre l'esprit religieux. Mais welcome to the club, on est comme ça ici. Quand vous allez venir à l'église, vous allez déranger. Non, mais sérieusement, vous risquez d'être dérangé peut-être chaque dimanche. Mais vous allez changer si vous obéissez, c'est vrai. Parce que je peux vous prêcher des belles choses qui vont vous flatter le sens du poil, mais ça ne changera pas votre vie. Vous allez rester un chrétien évangélique sans fruit, puis ça ne va pas avancer. C'est-à-dire que si je vous dérange, aimez-moi, choisissez l'amour quand même et priez, Seigneur, même s'il me tape ses nerfs parce qu'il me dit des affaires que j'aime pas, mais Seigneur, peut-être, montre-moi, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apprendre de cette chose-là? Et Seigneur, peut-être, va dire, mon enfant, hey, je t'aime au bout, mais j'aimerais bien ça que tu sois à l'heure à l'église. J'aimerais ça que tu viennes me louer, que tu n'arrives pas à la fin de la réunion, ou que j'aimerais ça passer plus de temps avec toi. Amen. Mais je vous aime en passant. Je vous aime tous, là, même si je vous chicane des fois. C'est pas mon cœur, hein? C'est que beaucoup de notre vie chrétienne, c'était autour de moi. C'était égocentrique, notre religion évangélique. C'était beaucoup centré sur nous. Mais Dieu, il veut que ça soit centré sur lui. Sur lui, ce qu'il veut. En réalité, là, savez-vous faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de connaître ce que Dieu veut. Et de lui obéir. Et de marcher en obéissance. Et comme on est obéissant, C'est merveilleux. Regardez Galates 1:10. Galates 1:10, ça dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur ou esclave de Christ. » C'est le mot « doulos » encore. Donc, je ne serais pas esclave de Christ. Donc, ici, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Il recherchait la faveur de Dieu, pas la faveur des hommes. Si votre vie est dédiée pour plaire à votre Seigneur, ça, c'est merveilleux. Je vais le relire parce que vous n'avez pas compris. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Moi, c'est celle de Dieu que je veux. Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Le problème aussi, c'est que pendant longtemps, on a dit, j'ai Dieu dans ma vie. C'est un problème, ça, pour nous, si on a Dieu dans notre vie. On a besoin de dire, Dieu est ma vie. Il ne fait pas partie de ma vie. Alors, ben moi, dimanche matin, ça, je consacre cette portion-là de ma vie au Seigneur. Non, Dieu est ma vie. J'existe pour l'honorer. J'existe pour le glorifier. J'existe pour Dieu. J'existe pas pour moi-même. Comme on dit en anglais, it's not about us. C'est pas nous autres le thème de la Bible. Le thème de la Bible, c'est Seigneur Jésus. On est là pour lui. On est là pour lui. C'est ça qu'on a besoin. Si on peut avoir toute cette révélation-là, vous êtes, on est là pour lui. On est là pour l'honorer, l'adorer. Ouais, mais je me sens pas comme si. So what? Puis ça, tu te sens pas comme ça. Comment qu'il sent, lui? Ben, moi, je me sens rejeté. Mais lui, est-ce qu'il t'a dit qu'il te rejetait? Non. Ben, oublie tes sentiments. Crois à sa parole. Le maître dit qu'il va jamais te délaisser. Il t'aime. Crois ça. Ouais, mais je me sens pas comme si, comme ça. Qu'est-ce qu'il dit à ton sujet? Ouais, mais je le sens pas en dedans. Savez-vous, on a été trop guidés par nos sentiments. Le maître a déclaré des choses sur notre tête. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Pensez-y, un enfant de Dieu, héritier, co-héritier de Jésus. Peu importe comment je me sens, ça ne change pas ça, là. Je suis un enfant de Dieu. Il m'aime. Gloire à Dieu. Maintenant, ce que le Seigneur recherche en terminant pour la prochaine heure. Dieu est ma vie. Savez-vous, si Dieu est vraiment, vraiment votre vie, cette église va changer pour le mieux, là. L'obéissance. Ce que Dieu recherche, c'est l'obéissance, motivée par l'amour pour Dieu. Dans Jean 14, 15, ça dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Oh, ça, c'est légaliste, mon frère. On est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. « Si vous m'aimez, Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais quel commandement? Pas juste celle du passé, là, de pas tuer puis pas faire ci. Mais ce que Dieu nous commande aujourd'hui. Si Dieu me commande, admettons, de m'impliquer dans l'école du dimanche, admettons, on n'a pas besoin en passant, on a une vingtaine de profs, c'est super. Mais admettons, si Dieu dit, si tu m'aimes, va prendre soin des petits-enfants. Puis si on dit, ben, ça ne me tente pas, Seigneur. Mais Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, faites ce que je vous demande de faire. Si vous m'aimez, ben ça me tente pas, je m'aime plus que j'aime Dieu. Voyez-vous, je fais plus à ma tête. Mais si on veut vraiment bénir le cœur de Dieu, on va faire ce qu'il nous demande de faire. On va l'obéir parce qu'on l'aime. Et savez-vous, en plus, votre obéissance et destinée et votre destinée sont reliées ensemble. Comment vous obéissez Dieu aujourd'hui, c'est relié à votre destinée. Moi, j'ai compris ça. Juste avant d'aller au Miracle Channel, au début, ça faisait pas de sens. Et le Seigneur me dit, ce que tu vas répondre quand j'ai été invité à déménager là-bas, dit, qu'est-ce que tu vas répondre là, va changer le restant de ta vie. Puis moi, j'ai été un petit peu rebelle, puis j'ai dit, ça fait pas de sens, je peux pas y aller. Mais Dieu avait parlé, dit, ce que tu vas répondre là, et ce que vous répondez aujourd'hui, va changer votre demain. Ça va changer votre demain. Soyez persévérants dans l'appel de Dieu. Peu importe ce que Dieu a décrété ou a communiqué dans votre cœur, restez connectés et ne changez pas de chemin jusqu'à temps que Dieu vous le dise. Votre destinée est reliée à votre obéissance, à l'appel de Dieu sur votre vie. C'est super important. Dans Matthieu 7, 21, ça dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous pourriez méditer là-dessus. Dieu se cherche également des adorateurs qui vont l'aimer exclusivement. Dans Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » pas d'autre Dieu. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Oprah Winfrey a pensé, elle le dit à la télévision, elle dit, moi, elle dit, je veux pas un Dieu jaloux. Elle dit, un Dieu qui est jaloux de moi avec toute ma richesse, voyons. Elle comprenait très mal ce qu'il voulait dire. Dieu est un Dieu jaloux, il est jaloux pour nous, pas de nous. Il est jaloux pour nous, il veut nous avoir. Il nous aime tellement, il veut nous avoir exclusivement pour lui. Une dévotion exclusive. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Dieu doit être le Dieu de votre vie, à tous les niveaux dans votre vie. Amen. Une dévotion totale, exclusive. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est-tu assez, ça? Je pense que j'ai couvert toutes les dimensions de notre vie dans Marc 12, 30. Et il veut également une vie consacrée. Dans Luc 3, 8, ça dit « Produisez donc les fruits dignes de repentance. » Si vous êtes un enfant de Dieu, que votre vie puisse vraiment porter les fruits qui démontrent que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Je vais vous lire quelques textes. Là, ce matin, je vous ai dérangé. Hein? Il y en a certains d'entre vous, je vous ai dérangé, peut-être. Je vais vous déranger encore un petit peu plus, OK? Il me reste 2 minutes. Dans Hébreux 10, 25, là, je prêche à la chorale, comme on dit en anglais, parce que vous êtes ici. Mais dans Hébreux 10, 25, ça dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ça veut dire « Soyez fidèles à l'Église. » Ça, votre commandant, votre maître vous dit ça. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la compagnie des croyants, vous pouvez le louer, l'adorer, et vous recevez la parole pour demeurer ferme et fort en lui. Vous savez une autre chose? Je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent sur l'Internet des fois, et qui me disent qu'ils sont dans une église qu'ils n'aiment même pas, qu'ils sont en train de dessécher spirituellement et qui nous écoutent par l'Internet. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous, mes chers amis. Si vous êtes dans une église et vous êtes là parce que votre mère, votre père, votre tante, vous êtes là pour les mauvaises raisons, sachant que Dieu vous a appelé à aller ailleurs, je vous invite à obéir Dieu aujourd'hui. Je sais que je m'adresse à des gens. Il y a tellement de gens qui sont en dehors de leur appel parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des voisins, ils ont peur de la famille. Ils ont peur d'obéir Dieu. Puis entre-temps, savez-vous, moi j'ai vu ça. Les gens avaient peur d'obéir Dieu et leurs enfants sont tous allés dans le monde. Ils savaient que leurs enfants n'avaient pas la nourriture, ils ne recevaient rien. Les enfants étaient en train de dessécher, puis ils sont comme, ils restent à la même place parce que c'est ma religion évangélique. Mais Dieu nous appelle à être sensibles, d'écouter qu'est-ce qu'il nous dit. Si vos enfants sont en train de périr, sachez que Dieu veut les sauver, vos enfants. Dieu veut les sauver, vos enfants. Il y a une nouvelle mode aussi dans l'Église. Je prends quelques minutes encore, mais ça ne dérange pas. Hein? Il y a une mode dans l'Église où les gens disent, ben, moi, mon Église, c'est d'aller au restaurant, je prends un café avec des frères et des sœurs et on parle de Dieu. Ça, là, enfant de Dieu, ça, je crois que ça vient de l'enfer. Je vais vous le dire, traite comme je le pense. C'est terrible, ça. Moi, je trouve ça, c'est horrifique. J'ai rajouté ça dans le nouveau livre que j'ai écrit, là. Parce que certainement, on peut aller au resto et parler de Dieu, mais ça, c'est un complément à l'église locale. Ça ne remplace pas l'église. Ça ne remplace pas l'église. Je trouve ça vraiment triste. Imaginez si on faisait tout ça, là. On arrêtait tous de se réunir et on allait juste au resto au Saint-Hubert, puis on ferait une prière autour de la table, puis on parlerait de Dieu. Il n'y aurait plus de témoins évangéliques dans cette ville. Ça serait terrible. Ça serait terrible. Mais regardez bien, c'est contraire à la parole. Dans le psaume 22, verset 22, ça dit « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Tu seras, verset 25, « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. » En présence de ceux qui te craignent, je vais te louer, t'adorer, parce que tu en es digne, Seigneur. Ça veut dire que je vais aller à l'église, ça. C'est ça que ça veut dire. Amen. Psaume 26, 12, ça dit « Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. » Ça revient, j'avais genre 10 versets sur « dans les assemblées », mais je vous ai épargné, j'ai enlevé une page de notes hier soir. Mais c'est clair, c'est le cœur de Dieu que les enfants de Dieu viennent ensemble pour louer et adorer leur Dieu. On doit vraiment avoir Dieu comme notre maître. Notre maître. On fait qu'est-ce qu'il veut, pas qu'est-ce qu'on veut. Dieu s'attend également qu'on va avoir une vie productive. Luc 19, 13, vous pourrez le lire. Il veut également un peuple où les gens ont une confiance absolue en lui. Hébreux 11, verset 6. Et également des gens qui ont un cœur de serviteur dans Matthieu 20, 27 et Marc 9, 35. Finalement, Dieu nous a sauvés pour nous délivrer de l'esclavage. Mais par la suite, dans son amour, qu'est-ce qu'il veut pour nous? C'est qu'on puisse le servir de notre cœur. Qu'est-ce qu'il veut? C'est des amis qu'il aime. Des amis, vous savez, quand il veut qu'on fasse quelque chose, son objectif, c'est toujours pour notre bien. Quand il nous dit « fais ci » ou « fais pas ça », c'est parce que c'est le cœur du Père qui veut protéger son enfant. Parce qu'il sait « hey, j'ai une destinée glorieuse pour toi, reste avec moi, marche avec moi, fais pas ton agenda, invente pas ton chemin, tu comprends rien en ce moment, ça dérange pas, moi je comprends, je sais qu'est-ce qui est à l'autre bout de ce chemin-là, marche avec moi, ah ouais, moi mais papa je me sens comme si je me sens, continue mon enfant, arrête pas, continue. » Et c'est, vous savez, c'est juste ça que Dieu veut pour nous, qu'on marche avec lui. Puis il dit « mon joug est doux et léger, puis allez vous reposer ». On a un bon maître. On a un bon maître. Il nous aime, mais on se fait voler si on pense le contraire. Si on pense, je vais faire ma vie à ma tête. Donc, pour répondre à la question, pourquoi suis-je ici? Vous êtes ici, vous avez été créé par Dieu pour l'adorer. Et que votre vie soit une vie remplie d'adoration. Que votre vie soit, on dit en anglais « worship », mais toute notre vie. Notre existence, c'est pour s'approcher de lui. On veut s'approcher de lui, on veut l'adorer, le louer. Ça veut dire on va prendre du temps chez nous, on va mettre la louange dans notre maison, on va passer du temps à le louer. Vous dites, ben j'ai pas d'argent, peut-être m'acheter des disques. Allez sur YouTube. Moi, j'achète même plus de disques, je vais sur YouTube. J'écoute plein de chants de louange, je peux passer des heures à louer le Seigneur. Et là, Dieu vient me visiter, son esprit vient me toucher, on se met à pleurer. C'est bon? C'est bon. Et Dieu, il dit, « Ah, j'aime ça que tu es là avec moi. J'aime ça que tu passes du temps avec moi. » Ça fait peut-être longtemps que vous avez passé du temps avec Dieu. Peut-être vous dites, « Ben, j'ai pas le temps. » Oh, mais allez vous reposer en lui. Allez vous coucher dans son jardin aujourd'hui peut-être. Allez ce soir, là. Prenez du temps avec lui, avec votre Dieu. Puis si vous êtes confus, dites, « Seigneur, je suis confus. » Et là, le Seigneur va vous toucher. Le Seigneur va vous parler. Il va venir faire du ministère auprès de vous. Le Seigneur, moi j'aimerais ça que chaque personne ici, là, que vous puissiez tous avoir la révélation, j'existe pour lui, pour le louer, j'existe pour l'adorer. Ça va changer notre vie par la suite, parce que là, ça veut dire qu'on va commencer à le louer à chaque jour, on va le louer. Quand les gens vont vous voir, vous allez être comme Vicky, que le sourire est estampé sur le visage, parce qu'elle a la joie de l'Éternel, ça transpire la joie de l'Éternel. C'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous, qu'on puisse resplendir sa gloire. On a été créé pour ça. Je vais inviter l'équipe de la louange ce matin. Et ce matin, peut-être vous êtes un chrétien de longue date et peut-être vous n'avez même jamais donné votre vie au Seigneur. Je veux vous donner l'opportunité ce matin de dire, Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie pour être le bon maître. Je veux te donner ma vie et j'accepte d'être libéré. J'accepte d'être racheté de ce monde d'esclavage. Alors, je vais vous inviter à pencher vos têtes ce matin. Je vais vous inviter à pencher vos têtes et on va prier pour ceux et celles qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus. Et je vais vous demander tous et chacun de répéter après moi, mais premièrement, j'aimerais demander la question, est-ce que quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie, ou même si vous l'avez fait dans le passé, aujourd'hui vous voulez, pendant que toutes les têtes sont penchées, il n'y a personne qui regarde en ce moment, toutes les têtes sont penchées, et même par l'Internet ou à la radio, j'aimerais ça vous demander, si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, ou aujourd'hui vous voulez prendre une décision pour lui, et dire, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux que ma vie soit dédiée à l'adoration du seul vrai Dieu. J'aimerais ça vous demander de lever votre main aujourd'hui, là où vous êtes. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Je vois les mains. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Amen. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous demander tous à prier avec moi. Et on va prier ensemble. Seigneur Dieu, j'aimerais ça que vous priez avec foi, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, je te donne ma vie. Remplis-moi de ton esprit. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour ta gloire. Je veux te louer avec ma vie. Je veux te donner ma vie et que cette vie ait un but. Pour l'éternité, je te demande de me pardonner, de me purifier, de me laver. Merci, Seigneur, de m'adopter dans ta famille et de faire de moi un de tes enfants. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vais vous inviter à nous contacter sur info@evqmedia.com, info@evqmedia.com. On a des gens, on a des gens qui sont là pour vous aider dans votre marche chrétienne avec le Seigneur. Et si aujourd'hui c'est la première fois que vous avez fait cette prière, on a également des livres à la table d'accueil pour vous. On veut vous remettre ces livres-là pour vous aider dans votre marche chrétienne. Mais moi, j'ai la foi aujourd'hui. Vous savez, on peut avoir un coup raide. La Bible nous parle de un coup raide, des gens qui ne voulaient pas suivre le Maître. Mais on n'est pas de cette compagnie-là. On est des gens où notre cœur est tout à fait ouvert. On dit, Seigneur, oh, change ma vie, Seigneur Dieu, que je puisse vraiment t'adorer. Et là, on a entendu parler de ça, l'adoration. Mais ce matin, je vais vous inviter à vous lever à votre place. Et on va vraiment le faire ce matin. On va vraiment l'adorer. Rappelez-vous, vous avez été créé pour ça.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus grandes informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.